Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour cette édition du journal de Nu Info. Au menu, le Conseil de sécurité examine la situation au Yémen. L'Assemblée générale élit 14 nouveaux membres au Conseil des droits de l'homme. Les enfants sont au cœur de la journée mondiale de l'éradication de l'extrême pauvreté cette année. Et en dossier, la FAO nous explique comment lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire. Le Conseil de sécurité a fait le point aujourd'hui sur la situation au Yémen. L'envoyé spécial du secrétaire général pour ce pays, Martin Griffiths, a fait part des signes encourageants de réduction de la violence et d'initiatives pour alléger les souffrances de la population yéménite. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Il y a des signes d'espoir, mais ils sont fragiles. C'est le message adressé par l'envoyé de l'ONU au Yémen devant les membres du Conseil de sécurité. Le Yémen est déchiré depuis plusieurs années par un conflit qui oppose les rebelles Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa au nord du pays, et les forces pro-gouvernementales soutenues par une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Début août, des affrontements ont éclaté à Aden, la capitale provisoire du gouvernement du président Abdrabbou Mansour Hadi, entre deux factions habituellement alliées contre les rebelles Houthis. Martin Griffiths a noté aujourd'hui qu'au sud du pays, la situation restait instable, avec un calme fragile à Aden. Selon lui, des signes encourageants indiquent qu'un accord visant à résoudre les problèmes entre le gouvernement du Yémen et le Conseil de transition du Sud pourrait être apporté demain. L'envoyé de l'ONU a également noté la réduction très récente de la violence dans le nord du Yémen à la suite de l'initiative prise par les Houthis de suspendre toutes les attaques de drones et de missiles balistiques contre l'Arabie Saoudite. Enfin, Martin Griffiths s'est félicité de la libération de 290 détenus par les Houthis et a souhaité que cela marque le début d'initiatives supplémentaires qui faciliteront la libération de tous les détenus.
Agir pour les enfants et leurs familles, c'est le thème cette année de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Alors que le monde célèbre le 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'ONU rappelle que la pauvreté touche d'abord les filles et les garçons. Pascal Sim nous en dit plus.
Pour une fille ou un garçon, la probabilité de vivre dans l'extrême pauvreté est deux fois plus élevée que pour un adulte. La pauvreté condamne de nombreux enfants à une vie d'obstacles et se perpétue souvent d'une génération à l'autre, a déploré Antonio Guterres. Aussi bien dans les zones de conflit que dans le cyberespace, les filles sont particulièrement vulnérables, qu'elles soient victimes du travail forcé ou de l'exploitation sexuelle. Mais les filles sont aussi une force de changement, a souligné le secrétaire général de l'ONU. Plus une fille fréquente longtemps l'école, plus ses revenus sont élevés tout au long de sa vie et moins elle risque de se marier à un âge précoce. La scolarisation des filles est donc un élément déterminant pour briser le cycle de la pauvreté. Le chef de l'ONU a rappelé qu'on ne pourra mettre fin à la pauvreté des enfants sans s'attaquer à la pauvreté des ménages. L'accès à des services sociaux de qualité doit être une priorité, alors même qu'aujourd'hui, près des deux tiers des enfants n'ont aucune protection sociale.
L'Assemblée générale de l'ONU a élu 14 nouveaux membres au Conseil des droits de l'homme ce jeudi. La Libye, la Mauritanie, la Namibie et le Soudan occuperont les 4 sièges ouverts du groupe africain, alors que le Brésil et le Venezuela occuperont les 2 sièges pour l'Amérique latine, malgré la tentative du Costa Rica de faire dérailler la candidature du Venezuela. La question de quel État membre siégera au Conseil des droits de l'homme a souvent été agitée et politisée, mais selon le président du Conseil des droits de l'homme, Colisec, le Conseil a besoin de la contribution de tous ses États membres. On l'écoute.
Nous provenons de cultures, de religions, de contrées. Nous n'avons pas les mêmes backgrounds. Et donc, vouloir dire que seuls des pays qui appliquent un certain standard en matière de promotion et de protection des droits de l'homme doivent accéder au Conseil pour nuire un peu à l'universalité du Conseil. Parce que ça, également, c'est un objectif important. Faire en sorte que tous les pays puissent contribuer au travail du Conseil. Et donc, j'estime que les États qui font des efforts pour se rapprocher du Conseil, qui estiment qu'ils sont à un point A et qu'ils veulent aller à un point B, doivent être encouragés. Parce que déjà, le fait d'être candidat est un acte de courage parce que vous reconnaissez que voilà vos engagements, voilà vos réalisations en matière de droits de l'homme, mais vous acceptez de venir vous soumettre à la critique de la communauté internationale, vous frottez aux bonnes pratiques qui sont mises en œuvre ailleurs. Et donc, naturellement, vous acceptez que vous allez, au fur et à mesure, améliorer votre système de promotion des droits de l'homme. Donc, je pense qu'il faut, à mon avis, arrêter de mettre des barrages sur la voie du Conseil des droits de l'homme. Il faut laisser les États membres postuler librement et l'Assemblée générale, le soin est d'élire les candidats qui sont jugés les plus aptes pour contribuer pendant 3 ans au travail du Conseil.
Comment peut-on lutter contre les pertes et le gaspillage alimentaire? C'est la question à laquelle répond en cette semaine de l'alimentation un nouveau rapport de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture. Chaque année, près d'un tiers de l'ensemble de la nourriture produite est soit perdue, soit gaspillée, avec toutes sortes de conséquences pour les économies, pour la sécurité alimentaire et pour l'environnement. Carola Fabi est statisticienne principale à la FAO. Au micro d'Anaïs Autin, elle explique où ces pertes surgissent le long de la chaîne alimentaire et comment contrer le problème.
Le nouveau chiffre en ce qui concerne les pertes, après la récolte et jusqu'à la distribution, ce chiffre est situé à 14%. Donc 14% de la production agricole n'arrive pas au point de détail, n'arrive pas à être vendue aux consommateurs. Malheureusement, une mise à jour des estimations pour les gaspillages alimentaires n'est toujours pas disponible. Et donc, nous ne savons pas quel est le nouveau chiffre à niveau mondial. Alors, les pertes et gaspillages alimentaires se situent-ils au niveau de 25%, de 35%, un peu plus, un peu moins? C'est quelque chose que nous ne savons toujours pas.
Pourriez-vous nous expliquer brièvement la différence entre les pertes et le gaspillage alimentaire?
D'après la FAO, les pertes alimentaires surviennent de l'étape de la récolte ou de l'abattage ou de la pêche, pour les autres catégories d'aliments, à la distribution. Donc jusqu'au détail, mais non compris le détail. Et donc, elles affectent les premiers maillons de la chaîne alimentaire, les producteurs, les fermiers, les éleveurs, les industries alimentaires, les industries de la transformation, mais aussi le stockage et l'industrie du transport. Elles affectent plus notamment les pays en voie de développement, étant donné qu'elles sont dues principalement à un manque de connaissances des bonnes pratiques, à un non-accès aux technologies ou à une mauvaise infrastructure, une faiblesse des équipements, non-accès au marché et à un ensemble de conditions socio-économiques du contexte dans lequel les acteurs opèrent. Alors que les gaspillages alimentaires surviennent au niveau de la vente de détail et de la consommation alimentaire. Donc, elles sont du ressort des consommateurs et de la distribution des détaillants. Les régions les plus affectées sont l'Asie centrale et l'Asie du Sud, avec 21% de pertes le long de la chaîne de l'offre. L'Europe et l'Amérique du Nord, notamment, avec 16% des pertes, alors que le phénomène est le moins important en Australie et Nouvelle-Zélande, avec seulement 6% de la production qui n'arrive pas à la vente au détail. C'est bien sûr les fruits et les légumes et les racines et tubercules, où l'on a les niveaux des pertes les plus élevés, étant donné la périssabilité des produits. Et bien sûr, donc, les caractéristiques régionales et les caractéristiques des produits affectent donc les points critiques à travers la chaîne alimentaire. Et on voit beaucoup de variabilité au niveau des transports et des stockages.
Comment réduire les pertes et le gaspillage alimentaire?
La prise de conscience à tous les niveaux est certainement le premier pas pour aborder le problème. Surtout au niveau des gaspillages, un petit changement des comportements peut avoir un impact réel et concret au niveau du gaspillage individuel et dans les ménages. Mais la sensibilisation doit être combinée avec des politiques et des stratégies qui fixent des objectifs et aussi une décision stratégique par rapport à la mise en œuvre. Donc, faut-il donner des avantages financiers aux producteurs, des encouragements aux consommateurs? Donc, il faut en fait une approche systémique qui regarde à l'ensemble de la chaîne alimentaire, où sont les points critiques et quelles sont les actions concrètes et efficaces que l'on peut entreprendre. Et pour ce faire, il faut un engagement conjoint du secteur public, du secteur privé et de la société civile.
Comment le fait de réduire les pertes et le gaspillage alimentaire peut bénéficier au pays ou encore à l'environnement?
Donc, il y a au moins trois dimensions où l'on peut voir des bénéfices. Des dimensions déjà liées à une meilleure efficacité de la chaîne d'approvisionnement, où donc les producteurs et les différents agents peuvent augmenter leurs revenus du fait qu'ils parviennent à revendre une partie plus importante du matériel qu'ils ont acheté. Il y a certainement des bénéfices du point de vue de la sécurité alimentaire et de la nutrition, car des pertes moins importantes le long de la chaîne d'approvisionnement font qu'une plus grande quantité d'aliments arrive au niveau de la consommation. Donc la disponibilité alimentaire augmente. Et troisièmement, à ne pas oublier, il y a des bénéfices du point de vue de l'environnement, étant donné que produire en soi utilise des ressources naturelles. Il y a une utilisation de la terre, de l'eau, des entrants chimiques qui entrent dans le sol. Et donc, gaspiller les aliments signifie faire une mauvaise utilisation de nos ressources naturelles et aussi avoir des surcoûts en transport, en carburant, pour acheminer vers les consommateurs des produits qui finalement ne seront jamais mangés.
Et voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet, sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.